Chapitre 10, la constance flottante. Le tout ou rien n'existe plus. Il y a une pensée que presque toutes les femmes au cerveau atypique ont eue à un moment ou à un autre, dans le contexte d'un programme alimentaire ou d'une tentative de prendre soin d'elles-mêmes. Elles surviennent toujours de la même façon, brutalement, sans prévenir, souvent déclenchées par un événement objectivement minuscule. Un repas qui déraille, une soirée qui s'emballe, un matin où la jauge d'énergie est trop basse pour respecter le programme planifié. Et cette pensée murmure avec une conviction absolue et une cruauté tranquille, foutu pour foutu. Trois mots. Et pourtant, ils ont probablement saboté plus de tentatives sincères de prendre soin de soi que n'importe quel obstacle extérieur. D'où vient la pensée foutu pour foutu ? Pour déconstruire efficacement un mécanisme, il faut d'abord en comprendre l'origine. La pensée foutue pour foutue que les chercheurs en psychologie comportementale nomment l'effet de violation de l'abstinence, un terme identifié dans les années 1980 par les chercheurs Marlatt et Gordon dans leurs travaux sur les comportements addictifs, n'est pas une faiblesse de caractère. C'est une réponse cognitive prévisible à un ensemble de règles trop rigides. Voici comment elle fonctionne. Tu établis une règle, qu'elle soit implicite ou explicite. Je ne mange plus de sucre. Je fais du sport tous les jours. Je prépare mes repas à l'avance chaque semaine. Cette règle est formulée en termes absolus, sans espace pour la variation ni tolérance pour l'imperfection. Et lorsque, inévitablement, la règle est enfreinte une première fois, une réaction particulière se produit dans le cerveau. Plutôt que d'évaluer cette transgression pour ce qu'elle est, un écart ponctuel et infime dans le grand schéma des choses, le cerveau la traite comme la preuve définitive d'un échec systémique. La règle est brisée. Et dans cette logique binaire, une règle brisée équivaut à une règle inexistante. S'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de raison de se retenir. Et puisque tout est déjà raté, autant aller jusqu'au bout. C'est le glissement classique du biscuit mangé à 15h qui se transforme en la boîte entière avalée avant 18h. Non par gourmandise ou par faiblesse, mais en vertu d'une logique interne parfaitement cohérente dans un cadre du tout ou rien. Le problème, ce n'est pas toi, c'est le système. Pourquoi le cerveau neuroatypique est-il particulièrement vulnérable? N'importe qui peut tomber dans le piège du tout ou rien. Mais les cerveaux au câblage différent y sont structurellement plus exposés pour plusieurs raisons qui méritent d'être clairement identifiées. La tendance naturelle à la pensée extrême. Un cerveau neuroatypique traite souvent les situations en termes de contraintes, extraordinaires ou catastrophiques, hyperfocus total ou désengagement complet, enthousiasme débordant ou indifférence absolue. Cette façon de percevoir le monde a ses avantages, car elle génère de la passion, de l'intensité et une capacité à s'investir pleinement. Cependant, appliquée à l'alimentation et aux soins de soi, elle crée une oscillation permanente entre des pics d'engagement parfaits et des effondrements complets, sans jamais trouver la zone médiane où se construit un changement durable. La relation complexe avec le temps. Pour un esprit papillon, le passé et le futur ont souvent une présence moins tangible que le présent immédiat. Ce qui s'est passé hier semble lointain et abstrait. Ce qui pourrait arriver dans un mois est encore plus flou. Seul l'instant présent est pleinement réel. Cette perception du temps rend difficile la prise de recul qui permettrait de relativiser un faux pas et de le voir pour ce qu'il est. Un point parmi des centaines, sans pouvoir sur la trajectoire globale, à moins qu'on ne lui en accorde. L'intensité émotionnelle. Pour un cerveau hypersensible, un écart alimentaire n'est pas un événement neutre. Il s'accompagne souvent d'une vague de honte, de déception ou de sentiment d'échec, vécu avec une intensité disproportionnée. Dans cet état, la pensée foutu pour foutu n'est pas une conclusion logique, mais un soulagement pervers, une permission de relâcher une tension devenue insupportable. Ce qu'est vraiment la constance et ce qu'elle n'est pas. Dans l'imaginaire collectif, la constance ressemble à une ligne droite ascendante sur un graphique. Une progression régulière, sans interruption ni recul. Cette image est non seulement irréaliste pour tout être humain, mais elle est particulièrement toxique pour un cerveau dont l'énergie fluctue naturellement par vagues plutôt que sur un plateau stable. La vraie constance ne ressemble pas à une ligne droite, mais à une rivière. Une rivière qui avance inexorablement, mais qui serpente, ralentit dans certains passages, s'accélère dans d'autres et contourne les obstacles au lieu de les affronter. Elle peut parfois déborder sans pour autant cesser de couler vers sa destination. Le but reste le même, mais le chemin est vivant, organique et imprévisible dans ses détails, tout en étant cohérent dans sa direction. Ce concept, que nous nommons la constance flottante, représente un changement de paradigme complet. Elle ne demande pas la perfection ni un rythme identique chaque jour. Elle n'exige qu'une seule chose, savoir toujours comment revenir au centre, peu importe l'écart où le temps passe à dériver. Revenir au centre n'est pas un recommencement, ce n'est pas repartir de zéro, c'est simplement réaligner sa trajectoire, doucement, sans drame ni punition, vers ce qui compte vraiment. Déconstruire le mythe du recommencement. L'un des effets les plus pernicieux de la pensée, tout ou rien, est la culture du recommencement qu'elle engendre. Je recommence lundi, le premier du mois, après les vacances. On attend toujours que les circonstances soient parfaites. Le recommencement est séduisant car il promet une table rase, un nouveau départ libéré du poids du passé. Mais il véhicule un message destructeur. Ce qui s'est passé entre-temps ne compte pas. Ces jours sont perdus et sans valeur. Dans la constance flottante, il n'y a pas de recommencement. Il y a juste la prochaine action. Pas demain, pas lundi. La prochaine action disponible maintenant, aussi petite soit-elle, qui va dans la bonne direction. Un verre d'eau, un repas assemblé plutôt qu'un paquet ouvert, 10 minutes de marche, se coucher un peu plus tôt. Ces micro-actions ne réparent pas une semaine difficile, elles n'ont pas besoin de le faire. Leur unique rôle est de maintenir le fil, ce lien ténu mais vivant qui relie le présent à la direction choisie, même quand il semble presque invisible. La méthode douce du rebond. Il existe une pratique concrète pour transformer radicalement ta manière de traverser les périodes difficiles, le rebond minimal. Cette méthode s'applique lorsque ta jauge d'énergie est chroniquement basse, que les fringales nocturnes ont été fréquentes et que les repas sains ont laissé place aux commandes impulsives. Le rebond minimal repose sur une question simple à se poser au lendemain d'un jour, d'une semaine ou d'une période difficile. Quelle est la plus petite action possible que je puisse faire aujourd'hui pour aller dans la bonne direction ? Pas la meilleure action ni l'action idéale que tu ferais avec une jauge pleine et des circonstances parfaites, mais la plus petite, celle qui demande si peu d'efforts qu'elle est quasi impossible à refuser, même dans le pire état. Boire un grand verre d'eau au réveil, manger quelque chose, n'importe quoi, avant midi, sortir 10 minutes à l'air libre, ouvrir l'application Alma et y noter ton niveau d'énergie. Cette action minimale a deux effets qui dépassent largement sa taille apparente. L'effet physiologique, elle maintient un engagement minimal avec tes pratiques de soins, ce qui empêche la dérive complète. Et l'effet neurologique, elle envoie au cerveau un signal de compétence et d'agentivité qui contrecarre directement le discours de l'échec total. Je n'ai peut-être pas tout réussi cette semaine, mais j'ai fait ça et ça compte. Mesurer autrement, au-delà de la dictature de la balance. La balance est un outil de mesure le plus utilisé en matière de santé, mais pour beaucoup de cerveaux en ébullition, c'est aussi le plus destructeur. Voici pourquoi. La balance ne mesure qu'une seule chose, le poids total du corps à un instant T, en ignorant absolument tout le reste. Elle ne mesure ni l'énergie ressentie, ni la clarté mentale retrouvée, ni la qualité du sommeil. Elle ne quantifie pas le nombre de repas pris assis, la réduction des fringales nocturnes ou la légèreté nouvelle dans ton rapport à la nourriture. Elle ignore également les variations naturelles liées au cycle hormonal, à l'hydratation ou à l'inflammation passagère. Pour un cerveau hypersensible qui interprète les données en mode tout ou rien, un chiffre qui stagne ou qui augmente légèrement peut effacer en quelques secondes des semaines de progrès réels mais invisibles sur la balance. Et bien sûr, déclencher la pensée foutu pour foutu. La constance flottante exige d'élargir radicalement ce que l'on mesure. Les vraies données pertinentes ne sont pas numériques, mais qualitatives et subjectives. Comment était ton énergie cette semaine par rapport à la précédente? As-tu eu moins de fringales nocturnes? Les courses ont-elles semblé moins écrasantes? T'es-tu parlé plus doucement après un écart? Ces données-là racontent une histoire que la balance ne racontera jamais, et c'est cette histoire qui importe.